Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement.
Dans ce nouvel épisode, nous avons parlé d'impact avec Charles-Henri Marnia, multi-entrepreneur engagé et fondateur de Positive Company, le label RSE Made in France qui accompagne les entreprises dans leur trajectoire de développement durable. En plus de partager avec nous sa vision positive de la RSE, Charles nous invite à être dans le mode de l'action et à prendre le chemin de la RSE comme une opportunité plutôt que comme une contrainte. Qu'est-ce qu'un label et en quoi peut-il aider à changer les choses? RSE et performance sont-elles compatibles? Comment mettre en place une démarche RSE pérenne? Quels moyens se donner et quels indicateurs suivre? La réponse à ces questions dans cet épisode inspirant. Bonne écoute!
Bonjour Charles-Henri. Charles.
Bonjour.
On est ravis avec Juliette de t'avoir au micro d'Outside the Lab pour ce nouvel épisode sur le thème de la RSE et plus largement aussi sur les questions d'impact. Charles, t'es un multi-entrepreneur engagé. En 2011, tu fondes Davricourt, un cabinet de conseil et de recrutement qui agit pour rendre le secteur de l'industrie plus durable et tu inities un modèle nouveau en matière de bien-être au travail. Et en 2019, tu vas un cran plus loin et tu crées Positive Company, le label RSE Made in France, pour adresser plus globalement aussi les enjeux de la RSE. Notre première question pour démarrer, c'est quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à créer Positive Company?
Allez, je vais rentrer cash dans le sujet. Mon ex-femme, parce que je suis malheureusement séparé, ou pas, mais dans tous les cas, me disait, mais c'est con, avec toutes tes compétences, que tu fasses ça, les utilises à faire du fric. Et en fait, elle avait pas tort. Et je trouvais que ça a été un élément assez déclencheur, dans le sens où me dire, ben voilà, effectivement, quand j'avais quoi, 30 ans, j'ai créé Davricourt. En 5 ans, on avait 350 salariés, on faisait, je sais plus, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était quoi l'objectif derrière? C'était toujours plus, c'était de passer 400, 500, 600, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais je vais faire quoi de ma vie encore? Je commençais à approcher la quarantaine, ça fait un peu réfléchir. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut vraiment que je donne un impact positif à ma carrière. Et en fait, je faisais partie de cercles de dirigeants, etc. Et je voyais que modestement, j'avais quand même un peu d'aura autour d'eux. Et donc, quand j'ai voulu engager ma première entreprise dans une démarche RSE poussée, différenciante, parce que j'aimais bien faire les choses à fond et j'aime toujours les faire à fond, j'ai regardé à l'époque les labels qui existaient et sans les décrier, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un travail exceptionnel. Hein, jusqu'à à l'époque, la RSE, c'était... On parlait de réseau social d'entreprise, hein, c'était pas de la RSE comme on en parle aujourd'hui. Eh bien, les propositions qu'il y avait à l'époque me plaisaient pas en tant qu'entrepreneur parce que trop documentaire, et c'est encore beaucoup le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un scoring ou un label, etc., il y a encore beaucoup de labels qui sont décernés comme ça. Vous avez une plateforme en ligne, vous mettez des documents, vous mettez des chartes en place, et puis vous avez tel nombre de points. Et moi, je trouve ça très déceptif et finalement très greenwashing. Et j'ai mis, qu'est-ce qui peut exister comme modèle qui permette de vraiment garantir que l'entreprise ne fasse pas du greenwashing? Et donc, après deux nuits blanches, j'ai créé Positive Company en me disant, ben voilà, c'était Workplace à l'époque. Voilà, je pense qu'on a un concept qui est intéressant, qui est celui que la moitié de la notation est décernée par des enquêtes qui sont envoyées anonymement aux principaux concernés, finalement. Et donc, qui, mieux que les clients ou partenaires d'une entreprise, peuvent attester ou pas de l'engagement d'une entreprise? Et donc, l'idée a été le point de départ de Positive Company. C'était vraiment cette vision à deux parties, hein, entreprise et partie prenante.
Tu parles de pas mal de choses là, donc d'impact positif, de RSE, greenwashing, c'est plein de thèmes qu'on va pouvoir un peu découper pour rentrer un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est pour toi l'impact positif, la RSE, et pourquoi tu ne retrouvais pas ça dans la première société où tu n'as pas pu implémenter ça dans la première société dans laquelle
Non, j'ai pu l'implémenter et je continue à le faire, hein, puisque je suis toujours associé à cette entreprise, je suis plus du tout opérationnel. Mais non, on l'avait implanté. Et en fait, la RSE, c'est un concept quand même très vague, qui englobe à la fois la qualité de vie au travail, la sécurité, la santé des collaborateurs, l'empreinte sociale et environnementale d'une entreprise, son attache territoriale, son empreinte locale, ses pratiques aussi en termes commercial, achat, etc. Donc, quand on ne sait pas ce que c'est que la RSE et qu'on dit qu'il faut qu'on fasse du RSE, comme je vois beaucoup d'entreprises qui disent qu'il faut que je fasse du RSE, et ben en fait, on s'aperçoit que ce concept est assez complexe pour une entreprise qui veut se lancer là-dedans. Et notre premier métier, notre premier travail qu'on a fait depuis le début, c'est pas de vulgariser, mais c'est de démocratiser ça. C'est-à-dire que oui, il y a un nombre important de sujets qui vont être abordés dans la RSE, mais on peut les aborder de manière très structurée et de manière assez simple finalement. Et donc c'est ce qu'on a fait depuis 5 ans maintenant, c'est que nos référentiels, on les revoit, au début on les revoyait tous les 3 mois, maintenant depuis quelques temps c'est tous les 6 mois, et maintenant c'est tous les ans. Mmh. Et en fait on implémente à chaque fois des nouvelles idées, mais aussi on essaie de rendre de plus en plus accessible, j'aimerais dire, en fonction de la taille de l'entreprise, parce que ce qu'on a vu, c'est pas forcément le secteur d'activité qui va impacter la manière dont on va gérer la RSE, mais aussi souvent ce sont ses moyens. Et donc une entreprise de moins de 50 salariés va avoir moins de moyens qu'une entreprise qui a 400, 300, 500 collaborateurs, et encore moins de moyens qu'une entreprise qui en a plus de 1000. Et donc on a fait 3 référentiels justement qui permettent d'être accessibles en fonction de la taille de l'entreprise et donc de ses moyens. Donc voilà, je dirais c'est ça qu'on a mis en place pour rendre la RSE accessible. Et pour moi c'est aussi un point important, un deuxième point qui est important, c'est qu'on doit obligatoirement aligner ses référentiels avec un cadre légal qui est celui à minima de l'Europe. Donc, à ce jour, on est assez fiers d'avoir le référentiel le plus à jour aujourd'hui par rapport à une nouvelle réglementation qui s'appelle la CSRD. On ne va pas parler de gros mots ce soir, hein, mais c'est en gros une réglementation qui a été implantée au 1er janvier 2024 et qui impose à toutes les entreprises de plus de 250 collaborateurs, avec d'autres critères, mais dans les grandes lignes, c'est ça, un reporting à niveau européen. Comme j'ai envie de me faire un discours tout seul sans que vous me posiez de questions, j'ai aussi en tête le fait que c'est fondamental aujourd'hui pour une entreprise qu'elle s'intègre dans un contexte réglementaire, parce que maintenant que ça fait 5 ans que je fais ce métier à temps plein et plusieurs heures par jour, je vois que les seules choses qui font bouger les entreprises, c'est malheureusement pas l'envie ou le désir ou la motivation, ça reste la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va faire bouger les entreprises, c'est la loi. Ouais. Et donc, notre travail à nous tous aujourd'hui, c'est déjà de se conformer à cette loi, mais surtout d'essayer autant que possible de la faire évoluer dans le sens. Et on voit que malheureusement, en ce moment, ce podcast est un peu contextuel, mais ces enjeux réglementaires qu'on a peuvent parfois trop contraindre les entreprises. Et on a des marches arrière qui se retrouvent notamment dans le milieu agricole, hein, mais pas que. Parce que faut pas oublier non plus qu'on est dans un monde globalisé et qu'il y a une concurrence dans l'ensemble des pays du monde, et que si on veut être compétitif, plus on met des lois et des normes, et moins on l'est, en fait. Donc il y a aussi cet enjeu d'empreinte ou d'emprise, j'ai envie de dire, internationale sur ces sujets-là. Et c'est clairement l'ADN de Positive Company, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça, hein, et pas l'entreprise positive. C'est qu'on a pour vocation de capitaliser sur ce savoir-faire RSE franco-européen pour le proposer comme standard à l'échelle internationale. Et donc c'est pour ça que notre label a un nom anglophone, c'est pour ça que tous nos référentiels sont à minima en anglais et puis dans d'autres langues. L'objectif, sans se le cacher, c'est faire un peu de soft power à l'échelle internationale.
Voilà. Charles, tu as ouvert un certain nombre de portes dans lesquelles on va s'engouffrer ou pas. Mais avant, j'aimerais revenir à la question peut-être au cœur de notre échange aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un label ? Et en quoi, en tant que label Positive Company, peut changer les choses?
Moi, je n'ai jamais cru au label, de toute façon. Plus sérieusement, un label, c'est pour moi, ça devrait en tout cas être deux choses. C'est déjà un gage pour les parties prenantes d'un engagement d'une entreprise avec des objectifs. Et petit tacle par rapport à mes confrères, on est le seul label au monde, la RSE, hein, à avoir des critères d'obtention. C'est-à-dire que l'ensemble des autres labels ont un critère de points. C'est-à-dire que vous, consommateur, demain, quand vous allez voir le label XY sur une brique de lait...
Hein.
Je vais poser la question
dans tous les cas.
C'est pas de casser les autres, pas du tout. C'est juste de mettre aussi en avant ce qu'on trouve important dans un label. Et un label, c'est aussi un gage. Quand vous allez acheter un produit bio, vous savez qu'il n'y a pas de phytosanitaire dedans. Eh bien, un label RSE, ça doit être aussi des critères. Et donc, dans nos critères, nous, on a essayé de trouver des points communs à toutes les entreprises. Et c'est pas simple. Hein. Parce que dans les labellisés, on a 12, vous pouvez du consulting, mais on a des producteurs de moules de bouchot. On a la clinique Marcel Samba. Enfin, on a des centres d'imagerie médicaux. On a des assurances.
Mais au-delà du côté des critères comme ça, on parle de France, Europe, voire international. Est-ce que c'est viable? Parce que je pense qu'en France, on est un certain état d'avancement par rapport à l'Europe et par rapport à
les critères qu'on a mis en place sont internationaux. Et donc, dans les premiers critères, ça peut paraître basique. Pour avoir une étoile chez nous, il faut avoir à minima une démarche RSE qui soit structurée, c'est-à-dire qu'on peut demander à n'importe quelle entreprise qui est labellisée Positive Company de sortir sa démarche RSE, et dans la seconde, ils ont un document qui vous montre comment ils sont structurés, ce qui est le minimum.
Quelqu'un qui vient, une compagnie, pour reprendre le terme, j'aimerais faire du RSE, vous ne les accompagnez pas ou c'est pas
votre site ? Non, l'idée, c'est que tous nos référentiels sont en open source. Donc, ils peuvent eux-mêmes déjà se confronter à ce qu'on attend. Okay. Ensuite, ils vont se structurer. Et quand ils se sentent prêts, et il y a des entreprises qu'on a connues il y a 3-4 ans, qui viennent nous voir aujourd'hui. Donc, quand ils se sentent prêts, ils se lancent. Premier niveau, c'est déjà avoir une stratégie RSE écrite, formulée sur un minimum à un cadre. Deuxième niveau pour chez nous, c'est d'avoir réalisé un bilan carbone scope 3. Donc, c'est l'ensemble de son empreinte carbone. Et d'avoir défini un plan de réduction de son empreinte carbone. Déjà, vous faites le filtre déjà de 80% des entreprises. Et puis le troisième niveau pour nous qui est le plus élevé, ce à quoi vous allez concourir cette année, je vous le souhaite, c'est d'avoir soit inscrit sa raison d'être dans ses statuts. Alors c'est un peu technique la raison d'être dans les statuts.
L'entreprise à mission.
Alors c'est pas tout à fait exactement la même chose, les deux sont très proches. Depuis effectivement 2019, il y a la loi Pacte qui permet à toutes les entreprises qui le souhaitent d'inscrire leur raison d'être dans leurs statuts et potentiellement de devenir société à mission. On ne demande pas d'être société à mission parce qu'il y a aussi tout un cadre derrière la société à mission qui est assez lourd, notamment de vérification par un outil qui donne aussi une crédibilité à cette démarche. Mais ce qu'on demande, c'est que à l'entreprise, c'est qu'elle comprenne son sens dans la cité, c'est-à-dire quelle est la place de l'entreprise dans l'économie et qu'elle se fixe un but avec un minimum d'enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.
Dans ce cas, je reprends la question de Julia. C'est quoi le rôle de Positive Company dans tout ça? Quel accompagnement vous proposez à ces entreprises et quelle est la mission finalement au cœur de votre raison d'être?
Alors, notre métier à nous, c'est clairement de prendre n'importe quelle activité, de n'importe quelle structure et de les accompagner dans leur trajectoire de développement durable. Et de les accompagner avec une trajectoire qui est ambitieuse, mais aussi qui apporte de la joie et du business dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va permettre, grâce aux interrogations des parties prenantes, de pouvoir ressortir les enjeux importants de l'entreprise. C'est assez facile de se dire, bon, bah, moi, je vais être RSE chez moi, je vais arrêter les gobelets à la cantine, certes. Mais quand vous êtes producteur de papier ou je ne sais quoi, c'est pas ça l'enjeu.
C'est inscrit finalement la
Donc c'est finalement, c'est confronter ces enjeux internes de l'entreprise avec la vision des parties prenantes et de définir ensuite une trajectoire. Et notre rôle à nous, c'est que cette trajectoire elle soit ambitieuse, qu'elle soit impactante et qu'elle soit suivie dans le temps. Et donc une fois que vous rentrez dans la labellisation, vous êtes engagé déjà sur à minima 3 ans. Et ensuite, on fait des points tous les 6 mois avec vous pour voir où est-ce que vous en êtes, suite notamment au premier rapport. C'est ce qui a été mis en place chez 12 suite à notre dernière audit. C'est la mise en place, si je dis pas de bêtises, d'un plan à la fois d'intéressement, mais aussi la possibilité à chacun, je crois, de devenir actionnaire, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, ouais.
Voilà. Ça, typiquement, ça a été une des recommandations de Positive Company. Ça a été mis en place suite à notre rapport. Ça a été aussi remonté dans les enquêtes, le souhait de pouvoir participer à l'aventure de l'entreprise. Et concrètement, voilà, ça a été mis en place. Bravo. Et ça, c'est un des millions d'exemples qu'on peut avoir en termes d'impact qu'on peut avoir dans une entreprise. Je ne vais pas la citer, mais il y a des entreprises qui ont mis en place le télétravail pendant le Covid et qui, dès que le Covid est plus ou moins passé, ont décidé d'arrêter ça. Je peux vous assurer que quand on est rentré dans l'entreprise, on a été vu comme les messies. Le premier truc qu'ils nous ont demandé, c'est s'il vous plaît, essayez de remettre en place le télétravail.
Donc en fait, l'enjeu, c'est d'inscrire la RSE au cœur de son modèle d'entreprise et de l'aligner avec son modèle aussi de performance, de business, mais aussi de l'adopter de manière pérenne.
Exactement. Et en fait, un label, c'était un peu le début de votre question, c'est un label, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous engagez, que vous affichez, comme ici, Certified Positive Company, que vous êtes engagé derrière, en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est compliqué d'avoir des actions ou des comportements qui vont être à l'encontre de ça. Ça va être rapide de vous rappeler à votre
fameux gage dont tu parlais, en fait, qui nous oblige à être transparents à la fois envers nos parties prenantes, nos partenaires et nos collaborateurs.
Voilà.
J'ai une petite question assez simple, mais c'était quoi votre premier client? Parce que vous dites que voilà, on a toutes sortes de secteurs, on aiguille selon le secteur, donc les critères ou les actions à prévoir.
Oui.
Ça demande quand même de vos collaborateurs d'avoir une certaine expertise sur transverse. Alors, sur les secteurs.
Nous, on est très très bons généralistes, avec de plus en plus de spécificités qui se font, je dirais, de manière naturelle. On ne fait pas de prospection. Enfin, je veux aussi mettre un point important. Je sais que c'est un peu votre spécialité ici, d'accompagner les CRM et compagnie. Nous, on a zéro prospection. Donc, on ne maîtrise pas, j'ai envie de dire, les entreprises qui viennent nous voir. C'est que du bouche à oreille, de la connaissance et puis des gens qui adhèrent aussi au concept. Donc, aujourd'hui, on est des très bons généralistes avec de plus en plus de verticales expertise métier, avec l'expérience. Mais à la base, on est des bons généralistes. Par contre, ce qui va faire notre valeur ajoutée, c'est la fameuse interrogation des parties prenantes. Et en fait, c'est pas nous les spécialistes, c'est tous les gens qui vous entourent.
Ceux qui vont être capables de vous
dire, voilà, ceux qui vont être capables de vous dire vers quoi aller. Je prends un exemple, Rouge Gorge, qui est une entreprise qui vend des dessous, une belle entreprise, 600 salariés, elle fait partie du groupe Mulier. Quand on a lancé l'enquête auprès de 300 000 clientes, l'item numéro un qui est ressorti, c'était il faut absolument vous travailler les emballages, trop de plastique, trop de papier de soie, trop de ceci, trop de cela. Et l'item numéro 2, ce qui a été intéressant, c'était que en interne, les collaborateurs en numéro 1 disaient que l'entreprise était engagée, et puis les clients disaient la qualité des produits et le fait qu'ils soient abordables. Mais rien sur l'engagement de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de l'enquête? et de la restitution qu'on leur a fait, gros plan de com. Chez Rouge-Gorge, ils osaient pas. On parlait de greenwashing tout à l'heure. Eux, c'était l'opposé. Ils faisaient du green hushing. Ça veut dire qu'ils font plein de choses, mais qu'ils osaient pas le dire parce que c'est pas évident de prendre la parole sur ces sujets-là. Mmh. On peut très vite être taxé de greenwashing. Et donc, finalement, ce qui est ressorti en item numéro 2, c'était parlez-nous de vos engagements. Depuis, il y a énormément de communications qui sont faites dessus et je peux vous assurer qu'il y a des scans qui sont faits par des tonnes de sites, de spécialistes sur les problématiques de greenwashing qui aiment bien mettre ça en avant, des associations, etc. Depuis 6 mois, on n'a jamais entendu le moindre problématique de greenwashing les concernant. Mmh. Donc, ce qui se passe, qui est intéressant aussi quand on passe par un label comme nous, c'est que c'est une partie tierce qui va analyser l'entreprise et qui va récompenser ou pas l'entreprise. Et c'est très important aussi d'avoir une page où on peut aller attaquer, entre guillemets, notre label, mais notamment les labellisé, on a une page controverse. C'est-à-dire que n'importe qui, et je suis ravi d'en parler à cette radio ou ce podcast, mais n'importe qui ici, si chez 12, il y a des agissements qui se passent pas bien et que vous pensez qu'ils ne méritent pas le label, vous avez le droit de nous solliciter. On a un comité éthique qui se réunit régulièrement et qui va analyser la demande. Il faut évidemment que la demande soit fondée, il faut qu'il y ait un minimum de preuves, on garantit l'anonymat. Donc si jamais vous avez peur aussi pour votre job, évidemment qu'on garantit l'anonymat, mais vous avez la possibilité aussi de faire remonter ce genre de sujet. Donc c'est aussi ça qui est important.
Tu as dit ne pas vouloir les citer, mais on va le faire. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler les 3 points voilà, qui distinguent Positive Company d'autres labels comme Bicorp ou EcoVadis?
Alors, EcoVadis n'est pas un label, c'est une évaluation, ce qui est très différent. Une évaluation est basée purement sur de la revue documentaire. Et je mets un petit challenge à nos amis développeurs. Allez, s'il vous plaît, obtenez-moi Gold chez EcoVadis grâce à ChatGPT l'année prochaine. Si vous, s'il y a des développeurs qui m'entendent, j'aimerais bien qu'on arrive à obtenir un bon... allez, on peut même essayer de voir un peu plus grâce à ChatGPT.
On parlera de, justement, l'impact de l'IA sur ce processus.
Ben oui, mais à partir du moment où tout est documentaire, bah, vous faites ce que vous voulez avec du document. Enfin, c'est une évidence.
Génération
voilà.
De chartes RSE, ChatGPT,
Copilot. Je peux le faire devant vous. Hein. ChatGPT, produis-moi une charte de bien-être au travail. Je peux t'assurer qu'elle peut être meilleure que celle que j'ai rédigée pour nous. Hein. Donc voilà, ça montre un peu la limite du système. Donc pour EcoVadis, je dis juste que c'est pas un label, mais par contre, c'est une excellente solution d'un point de vue global. C'est-à-dire quand on a un grand volume d'entreprises à évaluer, les labels sont trop chers, trop longs, trop contraignants en termes de temps. Si on a besoin déjà d'avoir un indicateur globalement qui est assez bon hein, sur l'engagement d'une entreprise, ça marche très bien, EcoVadis. Et c'est aujourd'hui le leader mondial sur ce sujet, sur la notation extra-financière. Ils font très bien leur boulot, j'ai aucun débat là-dessus, et c'est un bon indicateur. Par contre, vous n'avez pas de conseil, vous n'avez pas d'accompagnement, vous n'avez pas de point de suivi. Mmh. On est purement sur à l'école, quoi. Hein. Oui ou non, quoi. J'ai fait ou j'ai pas fait, quoi. Après, sur du B Corp, aujourd'hui, c'est le leader mondial en label RSE, qu'on le veuille ou non. C'est 8000 entreprises certifiées B Corp. Il y a plein de points très positifs dans B Corp. Ils interrogent fortement le modèle d'affaires, c'est-à-dire que des entreprises de joaillerie, par exemple, en Suisse, ne peuvent pas obtenir le label B Corp parce que c'est l'extraction de métaux qui, évidemment, ont été faites parfois dans des conditions.
Donc finalement, on ne parle pas que de documents. Il y a aussi le produit, ce qui génère du business qui est évalué. Dans...
Évidemment. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de donner une médaille au meilleur. Voilà. Franchement, donner une médaille au premier de la classe, que B Corp le fasse, ça me va très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 99 autres derrière, sur les 100. C'est-à-dire tous ceux qui ont des business models pourris, qui font du fric, parce que le monde est fait comme ça aujourd'hui. Plus on a un business model pourri, plus on fait du fric. Donc, plus on a du fric, plus on a les moyens de changer les choses.
C'est quoi le business model derrière Positive Company?
Bah, le business model, il est peu rentable comme tous les labels. C'est-à-dire que on passe un temps de fou d'accompagnement, de suivi, de cocooning, de tout ce qu'on veut, d'audit et d'analyse.
Vous êtes les seuls qui travaillent pour la gloire, finalement.
Non, mais tous les labels, hein, tous les labels ne gagnent pas d'argent. Et c'est dommage, mais en même temps, ça fait partie du jeu et je ne me serais pas lancé là-dedans si je voulais être millionnaire, quoi. Voilà. Mais par contre, on a un vrai impact et on a une vraie action sur l'économie qui est intéressant et on est aussi des inspirations, je pense, pour beaucoup d'entreprises. En tout cas, on s'efforce de l'être et c'est ça qui nous anime au quotidien. Il n'y a pas que la valeur monétaire d'une entreprise qui est intéressante, c'est aussi sa valeur morale et on en fait partie. Voilà. Et ce serait intéressant demain de valoriser une entreprise pas que sur son résultat, mais aussi sur son empreinte sociétale. Et on y va de plus en plus, hein, ce qu'on appelle la triple comptabilité pour information.
Et si on rentre un peu plus dans le concret, même par rapport à Positive Company, quelles actions vous intégrez au sein de Positive Company, vous, quand je parle de toi et les collaborateurs, pour justement être aussi labellisé Positive Company? Est-ce
Alors,
que tu as quelques exemples vraiment très concrets?
Pour nous-mêmes, ce qu'on s'applique à nous-mêmes, oui. Voilà. Alors nous, on s'audite...
C'est quoi? T'as combien d'employés?
J'ai 10 de collaborateurs.
Ok. Donc, voilà.
Donc on s'applique évidemment à nous-mêmes le maximum de principes et on aime bien notre propre laboratoire et c'est même écrit dans notre raison d'être, puisqu'on est société à mission, de travailler sur des innovations. Et donc, une très concrète, c'est qu'on a testé il y a un an et demi la semaine de 4 jours.
Ah, génial, ça.
Et on s'est laissé 6 mois plein pour le faire, donc 6 mois plein moins un jour à chaque fois. Oui. Et j'ai demandé surtout à l'équipe, dire on applique vraiment le truc, mais par contre si vous avez besoin de bosser une heure ou deux le vendredi, vous pouvez le faire, pour pas qu'on soit dans le rouge non plus sur tous les dossiers, parce qu'on passe pas de l'un à l'autre comme ça, surtout quand on est en croissance comme ça. Mais surtout vous monitorez le temps que vous passez en dehors. Et on s'est aperçu qu'au final on travaille tous au moins 2-3 heures le vendredi ou le mercredi, parce qu'on a choisi, nous, le mercredi et le vendredi. Et donc, on a décidé d'acter sur la semaine de 4 jours et demi. Mmh. Voilà. Donc, et comme on n'est pas sur des sujets d'urgence, si ce n'est pas ce mardi, ce sera celui d'après.
Moi, je me pose la question, justement, à la lumière de cet exemple. C'est assez simple de lancer une dynamique sur une semaine de 4 jours à l'échelle de 10 employés. Mmh. Comment ça se passe à l'échelle d'une entreprise à 90,
150 ? On a plein de clients à qui on a proposé ça, qui l'ont adopté. Dont, je pense à Elmi, qui a maintenant 150 salariés. Qui, eux, sont vraiment à la semaine de 4 jours et pas 4 jours et demi, et ça fonctionne. Mmh. Et ils ont fait plus 50% d'effectifs en l'espace d'un an.
Mmh. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose peut-être que j'ai mal compris, mais j'aimerais bien revenir dessus. Tu as dit y a des sociétés qui ont donc moins de budget, et donc, en fait, on essaye qu'ils aient autant d'impact. Mais est-ce que moins de budget veut dire moins d'impact ? Pas forcément, non ?
Ah non, pas du tout.
Ok. Non, du coup, j'ai mal compris au départ de...
Non. Je dis juste que plus l'entreprise a de moyens, et effectivement, plus elle a de temps et d'énergie à y consacrer, ce qui est logique. Mais on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs hyper engagés qui donnent du temps, finalement, de leur temps à eux, pour essayer de faire changer les choses, pour revoir leur modèle d'affaires. Et j'ai un chiffre à vous citer dont on est fier, parce qu'on demandait tout à l'heure ce que vous vous auditez vous-même, etc. Donc nous, comme je disais, tous les ans, on envoie une enquête à tous nos clients et on leur demande aussi, on en profite pour leur demander qu'est-ce que le label a changé chez eux. 92% de nos clients ont innové dans leur modèle d'affaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait du greenwashing, ils n'ont pas juste changé les bureaux, les trucs comme ça. J'ai envie de dire, presque les bureaux, on s'en fout, nous. C'est quel est le cœur d'activité de l'entreprise. Ils l'ont tous fait évoluer, et je sais que chez 12, aujourd'hui, vous êtes en train de le faire. On en a discuté chez 12 aussi, vous êtes en train de réfléchir à quel est le pourcentage de missions à impact positif chez vous, comment vous pouvez aller vers plus d'impact positif dans vos missions. C'est ça, la RSE. Évidemment, les conditions de bien-être au travail sont importantes, on va pas surtout sur des cadres comme chez vous, et même sur les non-cadres, hein, encore plus, j'ai envie de dire. Mais le cœur de métier, c'est clair. C'est clairement ça, c'est comment vous le faites évoluer.
Je pense qu'on ne l'a pas tous en tête. Est-ce que tu peux rappeler les dimensions justement du label Positive Company ? Le modèle d'entreprise en fait partie. Quels sont les autres ?
Il y a 5 grands piliers sur lesquels on va scanner les entreprises. C'est son cœur d'activité, son modèle d'affaires, hein, typiquement. Et dans le modèle d'affaires, on a la gestion des risques aussi. Quand on parle de durabilité d'une entreprise ou de développement durable, nous, commun du mortel, pensons RSE ou environnement, en fait, développement durable, c'est comment l'entreprise va durer dans le temps. Et nous, ce à quoi on s'attache, c'est aussi à ce que le modèle d'affaires, il soit viable dans le temps et qu'il se transforme, mais surtout qu'il soit viable dans le temps. Parce que si demain, on va vous dire, j'ai pas mal d'exemples de clients qui aimeraient réduire des gammes qui sont pas forcément très vertueuses vers des gammes plus vertueuses, donc sous un peu plus chères, etc. Mais en fait, quand votre vache à lait, c'est la gamme qui n'est pas bonne ou qui n'est pas très vertueuse, demain, passer à 100% de produits un peu éco-responsables, vous mettez en péril un pourcentage énorme de votre chiffre d'affaires.
C'est vrai qu'on oppose souvent RSE, performance, et souvent RSE est quelque chose de...
Mais c'est compatible, en fait, dans l'innovation. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est l'activité. Après, il y a les modèles de gouvernance, qui, pour la petite anecdote, je ne sais pas pourquoi, n'est pas analysé chez EcoVadis, mais en tout cas, vous avez notamment des sujets de gouvernance, et c'est de là dont tout part. C'est-à-dire que si la direction n'est pas d'accord, il n'y a pas un projet qui avance dans une entreprise en général, sauf les holacraties ou les structures plates, mais il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, c'est des sujets liés à l'humain, c'est-à-dire les conditions de travail dans l'entreprise, les sujets liés à l'environnement, l'empreinte environnementale et le carbone, et la partie numérique responsable, et enfin, tout ce qui est empreinte sociétale, avec notamment l'implication associative, les achats responsables, voilà.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une entreprise se voit enlever le label Positive Company
à qui vous retirez? À ce jour, non, c'est jamais arrivé. Alors, on a eu des cas de controverse qui ont été gérés, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une partie prenante, un article qui est sorti. Je peux le citer, il nous en voudra pas, mais Electrodépôt, par exemple, qui est labellisé chez nous, avait fait son bilan carbone, mais il n'est pas publié. Voilà. J'ai envie de dire erreur de débutant. Normalement, quand on fait un bilan carbone, on doit le publier dans la base ADEM. J'ai pas d'avis dessus. Peut-être qu'ils ont pas voulu le faire parce qu'il était important, évidemment, au vu de leur activité. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient le faire,
mais en tout cas. Ils n'ont pas qu'Electrodépôt et un,
ou, bah oui, c'est sûr. Mais cela dit, pour le coup, c'est intéressant parce que ils ont passé le label, ils sont en plein renouvellement en ce moment. C'est quand même un des sujets principaux aujourd'hui chez Electrodépôt. Ils testent la majorité de leurs produits pour qu'ils soient le plus durables possible. Ils travaillent énormément sur la logistique, sur l'économie d'énergie dans les magasins. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites, mais ils sont évidemment conscients de... De toute façon, toute grosse activité, toute grosse entreprise a un gros bilan carbone, il ne faut pas se cacher. Mais donc voilà, donc il y a ce sujet, effectivement, qui est assez important dans les entreprises, quoi. Mm-hmm.
Tu parlais tout à l'heure de trajectoire et du rôle de Positive Company justement dans l'accompagnement des labellisés. Quelles sont selon toi les grandes étapes pour construire une démarche RSE et surtout quels moyens se donner? Je pense que c'est la question aussi assez concrète de, pour voilà, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, par où commencer?
Alors, c'est une bonne question.
Et les parties prenantes, les collaborateurs.
Ouais, c'est une bonne question. Bah, moi, je vous dirais, en toute objectivité, commencer par Positive Company. Hein. nos référentiels sont libres, gratuits et accessibles à tout le monde en ligne. Donc,
c'était la petite pause pub.
Ah, j'avais pas pensé. Non, mais plus sérieusement, vous avez des référentiels qui sont à jour, alignés avec la réglementation. Ils sont gratuits. On a plus de 1500 entreprises aujourd'hui qui les utilisent. Et on a, entre guillemets, que 200 labellisés. Donc, ça veut dire qu'il y en a un paquet qui l'utilisent juste pour se structurer. Donc, déjà, utiliser ça, c'est gratuit. Et en plus, on est nul en commerce, donc on vous relancera pas. Vous allez vous créer votre compte et vous allez être tranquille.
Il faudrait peut-être un CRM.
Peut-être, effectivement. Mais voilà, c'est pas notre idéologie, c'est pas d'aller se faire du démarchage. Donc on essaie d'être très souple là-dessus et je pense que c'est important pour nous aussi d'avoir cette image-là. Parce qu'on doit venir pour un label par motivation et pas parce qu'on est motivé par d'autres, quoi. Voilà. Donc, première étape, je dirais déjà voir ce qu'il y a dans une démarche RSE en utilisant ces diagnostics gratuits en ligne. Ensuite, effectivement, interroger ces parties prenantes, ça me paraît être vraiment important. Se faire accompagner par des consultants. Il y a des tonnes et des tonnes de consultants disponibles, compétents aujourd'hui, pas chers pour une bonne partie d'entre eux. Faites-vous accompagner. C'est comme tous les métiers. Moi, je serais incapable de faire le vôtre et je vais gagner beaucoup plus de temps si je passe par vous que si je le fais par moi-même. Et ben, je dirais c'est pareil. Faites-vous accompagner. Il y a plein de cabinets qui sont compétents là-dessus et qui sauront vous donner une trajectoire avec un bon rapport qualité-prix. Après, aussi créer une équipe interne, c'est la base. Par contre, petit point d'attention quand même qu'on a pu voir nous, c'est qu'on a souvent tendance pour valoriser quelqu'un de lui donner une dimension RSE à sa fonction. Donc voilà, en plus déjà du 120% de taf que tu as au quotidien, on va te demander de faire 30% de RSE en plus. Donc au début, tout le monde est content. Mais en fait, on se retrouve avec une charge de travail qui est énorme et avec souvent aussi des démarches RSE qui ralentissent ou qui sont pas dans un bon timing par rapport aux enjeux ou même aux engagements que font l'entreprise.
Mais alors du coup, ce que j'entends, moi, c'est que tu dis qu'il faudrait finalement une instance, ou en tout cas un groupe dédié à la RSE. Ouais. Mais en même temps, ça doit être au cœur des enjeux d'entreprise et au cœur des préoccupations des collaborateurs, comment on s'y prend au quotidien en tant
qu'entreprise. De toute façon, une entreprise n'est composée que d'hommes. Donc, si les hommes ne bossent pas, c'est pas l'entreprise toute seule qui va bosser. Donc,
c'est sûr, il faut quelqu'un pour lancer la dynamique et ça doit venir du haut, du bas. Enfin, quel est ton point de vue là-dessus?
Je dirais que pour moi, ça doit être consultatif et coopératif, quoi. Voilà. Mmh. Donc, ça doit être une discussion ouverte avec des membres volontaires et avec aussi une direction qui se sensibilise de plus en plus sur ces sujets. Je pense que les deux, la formation des dirigeants et la motivation des collaborateurs, sont quand même deux clés fortes sur ces sujets, quoi.
On a abordé pas mal de leviers. Après, vient naturellement la question des indicateurs derrière. Comment on pilote sa stratégie RSE pour justement la faire pérenne?
Alors, si vous devez retenir qu'une chose, mettez pas 1000 indicateurs. Prenez-en 3 bons, ça suffit. Mais 3 bons qui sont assez...
Qui parlent à tout le monde, surtout, qui soient assez...
Un exemple...
concret, d'indicateur.
J'en parle parce que je sais que chez 12, c'est un des enjeux, mais je sais que typiquement, avoir une évaluation avec une note sur Positive Company qui évolue chaque année avec un objectif de note ou d'étoile est un bon indicateur. Parce que ça permet à la fois d'interroger ses parties prenantes, d'embarquer ses clients, ses fournisseurs, ses salariés. Ça permet d'avancer rapidement sur ces sujets-là. Après, effectivement, ça va dépendre aussi de votre cœur de métier. Donc, il faudrait quand même, à minima, mettre un indicateur sur le cœur de métier. Je pense que celui que vous êtes en train de prendre de pourcentage de mission à impact positif, par exemple, est un très bon indicateur. Un peu complexe, qui va travailler dans le temps, mais c'est plus intéressant que, même si j'ai rien à dire sur l'index égalité femmes-hommes, mais même si parfois elle peut être un peu trafiquée, mais la manière dont on calcule, il y a quand même des disparités, on le voit, mais malgré tout, ça reste un indicateur intéressant, plus conventionnel. Mettez-vous en place des indicateurs qui vous ressemblent et que vous pouvez suivre aussi. Voilà.
Et on a parlé du greenwashing, à l'inverse du greenwashing. C'est quoi l'avantage d'être labellisé et du coup le désavantage aussi, la peur versus la fierté?
Bah, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui dit que vous êtes engagé plutôt que vous, déjà. L'avantage d'être labellisé, c'est que nous, on vous donne de la data. C'est-à-dire qu'on va vous donner du pourcentage de satisfaction sur chacun des items des enquêtes qui sont envoyés aux collaborateurs. On demande s'ils se sentent bien dans leur boulot, on demande s'ils se sentent bien rémunérés. C'est, pour la petite anecdote, l'item le moins bien noté sur l'ensemble de nos labellisés. Et pourtant, ce sont plutôt des entreprises modèles.
Donc, vous avez combien de labellisés aujourd'hui?
On a 220 là aujourd'hui. Okay. Ouais. Donc voilà, l'avantage, c'est clairement d'avoir un cap à suivre et puis de pouvoir aussi communiquer sur ce que vous faites. Et surtout, c'est la communauté. J'en ai pas du tout parlé jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a parlé plein d'autres sujets. Mais au-delà de Positive Company et notre petite équipe, j'ai envie de dire, c'est 200 entreprises qui sont certifiées. C'est une cinquantaine de partenaires qui travaillent avec nous. C'est tout un écosystème auquel vous avez accès. Et on a innové sur le sujet. On a pris un peu de risque. On a créé un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, vous avez des communautés d'intérêt. Et dans ces communautés d'intérêt, vous avez numérique responsable, achat responsable, mode et textile responsable. Donc derrière, ça vous permet aussi de rejoindre des groupes de travail et puis de faire connaissance avec d'autres entreprises. Nous, on est convaincus que la RSE doit être participative. Le principe, le base même de Positive Company, c'est vraiment le dialogue partie prenante. C'est que les solutions, elles sont collectives. On doit sortir du modèle linéaire de « je suis seul dans mon business, je suis en compétition avec tous les autres et j'avance le plus vite possible ». Ça marche plus. On est dans un monde, je vais pas le rappeler, où l'ensemble quasiment des ressources sont épuisées. Donc, au bout d'un moment, quand il y aura plus, il faudra faire avec les autres. Donc, autant anticiper et commencer à travailler tout de suite avec ses confrères, ses concurrents, ses partenaires pour co-créer ensemble des solutions. Pour moi, la solution, elle est vraiment là.
C'est quelque chose qui marche, là, à ce moment. Vous avez lancé ça quand? Le groupe WhatsApp?
Ah, ça fait 3-4 ans.
Ah oui, d'accord, mais c'est pas nouveau.
Non, ça fait longtemps qu'il existe.
Et quel est ton retour d'expérience sur, justement, cette initiative? Est-ce que tu vois des tendances par secteur?
C'est difficile de répondre de manière générale à cette question parce que effectivement.
Déjà, est-ce qu'il y a un secteur qui prédomine dans les labellisés Positive Company?
On a beaucoup de médias, tout type de médias. On a dont la presse aussi. On a pas mal de sociétés de conseil, beaucoup de sociétés industrielles, de sociétés de l'agro aussi, si on les met dans l'industrie potentiellement. De plus en plus du monde de la santé aussi, qui est un peu un secteur nouveau, émergent sur les labels. Je crois pas même que mes confrères aujourd'hui, beaucoup d'entreprises du secteur de la santé, et pour le coup, c'est vraiment la grosse tendance qu'on voit aujourd'hui chez nous. Peut-être parce que la santé est un secteur qu'on pensait par défaut RSE, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gros enjeux dans la santé, il y a des gros enjeux éthiques. Comment on aborde le sujet du handicap, comment aborder le sujet de la maladie avec un patient, dans un monde où on est de plus en plus des numéros et on enchaîne les rendez-vous dans un monde de désert médical. Donc, il y a des gros enjeux aussi dans la santé qui sont en train d'adresser de manière très intelligente et c'est assez passionnant à suivre aussi.
Et justement, sur ces groupes d'intérêt, est-ce que tu vois l'intérêt d'initier une dynamique un peu cross-sectorielle ou est-ce qu'il faut plutôt travailler secteur par secteur?
Les deux. En fait, on a vraiment les deux et j'ai envie de vous dire, je sais pas ce qui s'y passe, parce qu'en fait, il y a une vraie autonomie sur les groupes de travail. Aujourd'hui, chacun décide ensemble de dire, qui est-ce qui a envie de travailler là-dessus? Donc, je sais pas la moitié des choses qui se passent dans nos groupes de travail, et tant mieux, parce qu'on a d'autres choses à faire aussi.
J'ai une petite question, c'est quoi ton ambition pour Positive Company d'ici 3 à 5 ans?
Alors,
au-delà de
moi, j'aime bien vivre aussi dans un monde positif. Nous, notre ambition à 5 ans, c'est d'arriver, elle est énorme, mais d'arriver à labelliser 10% des organisations en Europe. Il y a un théorème, une théorie plutôt, qui dit que si 10% d'une population agit différemment, le reste de la population va suivre. Ce qu'on appelle le tipping point. Et donc, on espère atteindre ce tipping point. Ça m'étonnerait qu'on arrive à obtenir autant d'entreprises labellisées, tant mieux s'il y a un effet d'emballement, mais je dirais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les entreprises labellisées en France, c'est 1000 à 1200 entreprises sur 4 millions de PME. On est l'épaisseur du trait, quoi.
Et encore donc, une grande marche.
Une marche qui est énorme et pas toutes les entreprises iront. Mais par contre, c'est important aussi que ces labels soient de plus en plus reconnus. Et ça, c'est une vraie difficulté au niveau des donneurs d'ordre aujourd'hui. C'est qu'à part un EcoVadis qui commence à faire foi à l'échelle internationale, des labels comme le nôtre sont malheureusement pas assez valorisés, je trouve, dans les appels d'offres. Et j'aimerais que ça le soit plus. On fait un plaidoyer régulier là-dessus pour aller voir les donneurs d'ordre, pour expliquer ce qu'on fait, la sérieux de la démarche, etc. Mais malheureusement, c'est pas encore assez valorisé. On aimerait que ça le soit de plus en plus. Ça le sera. Aujourd'hui, il faut voir qu'à l'échelle de l'économie, des labels comme les nôtres ont maximum 10 ans pour le plus ancien. Donc, c'est rien, je dirais, à l'échelle de l'économie. Mais je pense que dans le temps, le sérieux de nos démarches, tous les labels confondus, vont, j'espère, montrer que les entreprises qui sont engagées avec nous sont des entreprises qui vont vraiment dans le bon sens, quoi.
Tu te verrais, toi, être dans un groupe WhatsApp avec Bicorp ou Lucie?
Oui, mais bien sûr. Oui, oui.
Tu te l'appliques finalement.
On l'essaye. Je sais plus qu'un jour, on fait une semaine des labels tous ensemble. Dès qu'il y a Produit Durable chaque année, j'essaie de rassembler tout le monde pour faire une photo de famille, pour montrer qu'on envoie un message commun. C'est pas facile, j'avoue. Mais oui,
parce que les 10%, finalement, à vous tous, vous les réunissez. Donc,
bien sûr.
Et le but étant.
On les réunit pas du tout.
Entre Bicorp, Lucie, Positive Company.
On est à 1/1000%, et encore.
En France ou en Europe?
Partout.
Ah ouais? Ah, je me semblais que
il y a très peu d'entreprises labellisées. Nous, on est à 220. Je crois que l'AFNOR, c'est 250. Lucie, ça doit être 300. Bicorp, 300. Voilà, tout ça, ça fait pas beaucoup.
Ouais, hein. Non, je pensais que c'était
c'est
bien plus.
Plus de bruit que de volume.
Et ben pourquoi c'est si peu à côté, finalement, le label? C'est peut-être ça aussi, de base, que c'est pas connu. C'est pas
parce
quelque
que c'est
chose
une démarche
qui est reconnue par l'État.
Déjà, qui est payante. C'est-à-dire que déjà, par défaut, ça a un budget. Nous, on fait tout pour que la RSE soit pas un sport de riche. Mais malgré tout, il y a un travail. Vous avez vu le nombre de domaines, le scope, la largesse du scope est énorme. Donc, l'analyse d'une entreprise nécessite fatalement un temps homme qui est incompressible. Et tant mieux qu'il soit incompressible, que ChatGPT puisse pas le faire. Mais donc, fatalement, déjà, il y a un coût qui peut restreindre ça. Après, il y a une question d'image aussi, c'est-à-dire qu'on peut vite être taxé de greenwashing, donc certaines entreprises vont s'engouffrer dans cette excuse pour pas le faire. Et puis, c'est un engagement, et ça nécessite du courage. Et il n'y a pas suffisamment pour moi d'entreprise.
Tu disais, s'il y a une loi, les gens y vont. Est-ce qu'il y a des labels qui sont reconnus par l'État aujourd'hui?
Non, aucun. Et la plateforme RSE a lancé une consultation en 2021, si je dis pas de bêtises. Et l'État s'est désengagé du sujet, ce qui est un scandale. L'État devrait imposer ce genre de choses, comme il devrait proposer des subventions pour des entreprises qui font des bilans carbone. Il y en a de plus en plus, tant mieux. Mais ça devrait être, je dirais, c'est comme l'isolation des bâtiments. Ça devrait presque être gratuit, j'ai envie de dire, aujourd'hui.
Avant de clôturer cet épisode et de te poser nos deux questions signatures, peut-être t'entendre sur les sujets d'intelligence artificielle générative. On a évoqué ChatGPT. Quel est votre regard, tout label confondu, tu parlais d'une dynamique de mouvement, sur ce phénomène de société qui va être amené à s'ancrer?
J'ai une réponse toute faite. C'est-à-dire, il y a 20 ans, peut-être un peu plus maintenant, quand le numérique est arrivé dans les entreprises, celle qui a 20 ans se dit « bon, le numérique, bon, ça va être une mode, ça va passer », aujourd'hui, elles sont plus là. Là, il y a 3-4 ans, en gros, je le date au Covid, pareil, même phénomène, RSE. Toutes les entreprises ont dit, oh, le RSE, moi, ça va me passer à côté.
D'ailleurs, c'est le ou la RSE?
Non, c'est la RSE. je dis volontairement le RSE, ça me fait rire quand je l'entends, mais en même temps, ça me touche, je trouve ça touchant. Et ça montre l'intérêt qu'on y met. Voilà, sur les 30 dernières années, deuxième bouleversement, c'est les engagements RSE de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne monte pas à minimum une charte, un truc, un bilan carbone, un engagement, une notation, elle accède de quasiment plus au business aujourd'hui. Et maintenant, c'est l'IA. Donc, on peut dire, oh là là, ça va être une catastrophe. Non, on va le faire avec. Et on va, j'espère, essayer. Moi, j'ai toujours une vision positive de tout ça, de l'utiliser à bon escient, d'essayer de faire gagner du temps aux gens pour qu'ils aient du temps, justement, pour travailler sur les sujets RSE et qu'ils puissent...
Donc, vous l'utilisez dans vos démarches de labellisation?
Alors, nous, on l'utilise un peu. Ouais, on l'utilise un peu sur divers sujets. Il y a des sujets qui sont intéressants. Nous, dans le traitement des données aujourd'hui, quand on envoie des enquêtes à 300 000 personnes, on a parfois un volume énorme de data. Donc, plutôt que d'avoir quelqu'un qui passe 3 heures à le lire, effectivement, l'IA nous aide fortement là-dessus. Voilà.
Ok. Merci Charles, c'est un épisode inspirant. Avant de clôturer nos deux questions signatures, la première, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement, qui est la devise de Twelve?
Penser plus large et faire autrement, je dirais, puisqu'on est dans le thème de la RSE aujourd'hui, moi je dirais que penser plus large et faire autrement, c'est prendre le chemin de la RSE comme une opportunité, pas une contrainte. Donc c'est vraiment ça, c'est se dire aujourd'hui, ok, ce sujet arrive sur la table par toutes les parties prenantes, notamment de mes clients, clairement, ça aussi c'est ça qui fait bouger les choses. Aujourd'hui, comment je peux être malin dans ce système-là et comment je peux allier contrainte et opportunité?
Voir comme un moyen et non pas comme une fin.
Voilà, donc moi je dirais, ce que je trouve vraiment passionnant dans notre monde de la RSE, c'est que ça nous oblige à comprendre l'impact de notre cœur d'activité. Je reprends 12 encore aujourd'hui. Qu'est-ce que concrètement le fait qu'un Norman, Julia, je ne sais qui, va sur un site client et réalise une prestation, quel est l'impact de cette prestation? Jusqu'à aujourd'hui, les entreprises sont habituellement fonctionnent de cette manière. On a des demandes aux clients qu'on va chercher ou entrantes. On trouve des solutions en face, on fait des facturations et on passe à autre chose. Et le but, c'est d'avoir le maximum de facturations et le facturer le mieux juste possible, autant que possible.
Mais il y a une vraie complexité.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça a comme impact, quoi?
Pour les entreprises de service, à réconcilier justement toutes ces actions, en tant que société de conseil, c'est aller voir au-delà de notre propre impact, celui de notre client. Mmh. Et c'est une vraie barrière aujourd'hui, je pense, pour compiler et voir vraiment l'impact que peut avoir les solutions qu'on propose.
Ça se mesure et c'est des discussions que vous pouvez avoir. Autant il y a 10 ans, je pense que les clients auraient été plutôt fermés là-dessus. Aujourd'hui, ils vont être très ouverts. Et ça va être des opportunités de business. C'est-à-dire que vous allez les voir en disant, bon, OK, il y a notre activité, etc. Mais ensemble, comment on peut avoir un meilleur impact? Concrètement, on est en train de développer des apps, des choses comme ça. Elles tournent H24, alors qu'on travaille a priori de 9h à 18h, à peu près. Est-ce qu'on peut pas arrêter que les apps tournent la nuit? Est-ce qu'on peut pas mettre en pause nos serveurs?
C'est une vision positive, mais pas très réaliste, je trouve, parce que c'est vrai qu'on a tous des niveaux de maturité différents et c'est encore compliqué d'engager une vraie dynamique auprès de clients.
Mais c'est le rôle, c'est vos rôles à vous, c'est le rôle des entreprises labellisées d'aller sortir des sentiers battus, quoi. Et c'est ça qu'on va prôner, et c'est ça qu'on va aussi vous donner les moyens de faire, quoi.
Je pense qu'on y a un peu répondu, du coup, mais deuxième question, est-ce que t'as une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui, que ce soit dans ta vie pro ou perso?
Oh, je vais terminer sur un truc positif, mais je trouve que on a quand même, et ça se justifie, une ambiance assez lourde sur ces sujets. Et je pense que aujourd'hui, il faut qu'on ait un regard neuf sur nos activités et qu'on arrête de se morfondre. Je pense qu'il faut qu'on aille dans le monde de l'action aujourd'hui et qu'on prenne des vraies décisions et qu'on soit pas juste dans la planète va imploser, exploser dans les prochaines années, dans la planète où survivra, ça c'est sûr. Maintenant, c'est comment nous on va survivre sur cette planète. Mmh. Et donc, je casserai l'idée reçue du fait que c'est déterminé et qu'on va droit dans le mur. Non, moi j'y crois pas. Moi je crois, oui, c'est sûr que là aujourd'hui on va droit dans le mur, mais je pense et j'ai l'espoir en l'humain sur le fait qu'on trouvera toujours des solutions. Et je vais faire juste un petit aparté. Mon grand-père qui est mort aujourd'hui, il y a 14 ans, je pense à lui aujourd'hui, vous voyez. J'étais allé le voir quand j'étais dans ma première boîte, il y a eu la crise en 2008. Et je lui dis, mais là, c'est le monde qui s'écroule, là. Il me dit, t'inquiète pas, c'est quand les humains sont la tête dans le guidon ou dans la M, pour pas dire de gros mots, qu'ils innovent. Et là, maintenant que vous êtes face au mur, vous allez innover et j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et moi, je trouvais ça hyper intelligent d'une personne qui avait 94 ans quand même. Qui m'a dit non, mais là en fait, l'humain a besoin d'avoir le nez dans la.
Mais qui a sûrement vécu plein de choses, et puis en fait, que chacun à sa propre échelle pouvait avoir son impact et pas se sentir en fait moins bon qu'un autre.
Exactement. Okay.
Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup.
Merci Charles. On a été ravis de t'avoir au micro d'Outside the Lab.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.